Vous êtes sur RTL.
Le journal maintenant avec Jérôme Chapuis. Bonjour Jérôme.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Emmanuel Macron veut alourdir les sanctions contre les réseaux sociaux.
Pour lutter contre l'antisémitisme, le président préconise aussi une interdiction d'utilisation pour les personnes condamnées, à l'instar de ce qui se passe pour les hooligans dans les stades. Trois proches d'Emmanuel Macron pourraient être ciblés par la justice à la suite de l'enquête du Sénat sur l'affaire Benalla, dont les conclusions ont été rendues hier. La mère de Fiona libérée dans la soirée, la Cour de cassation a annulé la condamnation de Cécile Bourgeon. Un quatrième procès pourrait avoir lieu en juin. Et puis le foot, victoire du PSG 5-1 hier soir face à Montpellier.
À deux météos d'ici 6h30.
Dans l'Ariège à Saint-Girons, un ciel bien dégagé, 6 degrés ce matin, plein soleil et 18 cet après-midi.
RTL Matin.
Pour Emmanuel Macron, la lutte contre l'antisémitisme passe d'abord par les réseaux sociaux.
La honte doit changer de camp, a lancé le président de la République hier soir au dîner annuel du CRIF à Paris. Il admet que les condamnations systématiques après les insultes ou les profanations, comme celle de lundi en Alsace, ne suffisent plus. Emmanuel Macron annonce donc un tour de vis contre les acteurs d'Internet qui n'en font pas suffisamment, selon lui. Et il cite des noms, écoutez.
Il y a aujourd'hui encore des plateformes comme Twitter, pour citer les mauvais exemples, qui attend des semaines, quand ce n'est des mois, pour donner les identifiants qui permettent d'aller lancer les procédures judiciaires contre ceux qui ont appelé à la haine, au meurtre, qui parfois prend des jours, des semaines pour retirer des contenus ainsi identifiés. Ce que ce texte portera donc, ce sont des dispositions claires, imposant les retraits dans les meilleurs délais de tous les contenus appelant à la haine. Nous donner les moyens aussi de pouvoir interdire la présence sur un réseau social de personnes coupables de propos racistes et antisémites, comme on interdit les hooligans dans les stades. Ou à tout le moins faire en sorte que les condamnations pour actes racistes et antisémites soient publiées.
Emmanuel Macron, propos recueillis pour RTL par Olivier Bost. Frapper les réseaux sociaux au portefeuille, c'est la solution adoptée depuis plus d'un an en Allemagne chez nos voisins. Les plateformes qui ne suppriment pas les propos haineux dans les 24 heures risquent jusqu'à 50 millions d'euros d'amende.
RTL 6h02, la commission d'enquête du Sénat sur l'affaire Benalla a frappé fort, très fort. Elle a rendu ses conclusions hier.
Et elle s'est aussitôt attirée les critiques de La République En Marche et du gouvernement qui pointent, je cite, des contre-vérités dans ce rapport. Les sénateurs évoquent des dysfonctionnements majeurs qui ont pu, selon eux, affecter la sécurité du président, mais aussi les intérêts du pays. Pour eux, Alexandre Benalla a pris une place excessive dans le dispositif, en dehors de tout contrôle hiérarchique. Et ils préconisent la saisine de la justice, non seulement pour l'ancien collaborateur, mais aussi pour trois autres membres du cabinet d'Emmanuel Macron. Jean-Alphonse Richard, c'est ce qui embarrasse le plus l'Élysée.
Alors effectivement, si les cas de ces trois collaborateurs de l'Élysée sont transmis au parquet de Paris, ce sera une première judiciaire. Jamais autant de membres du palais présidentiel à des postes aussi élevés ne se sont retrouvés sous la menace d'une telle enquête judiciaire. Avant cela, il va falloir que le bureau du Sénat se prononce. C'est lui qui va décider de transmettre ou non le rapport de la commission sénatoriale au procureur. Si tel est le cas, il appartiendra à ce magistrat de décider si les accusations portées par les sénateurs à propos de ses proches du président, omissions, incohérences, contradictions. Si ces accusations sont fondées, le procureur aura alors toute latitude pour ouvrir une enquête préliminaire et faire entendre les trois collaborateurs d'Emmanuel Macron. Un cas de figure judiciaire inédit et une secousse prévisible jusqu'au sommet de l'État.
Jean-Alphonse Richard. L'État va reprendre la main sur la réforme de l'assurance chômage. Syndicats et patronats ont acté leur échec hier. Trop de divergences, notamment sur la question de la taxation des CDD.
On y reviendra dans trois quarts d'heure avec notre expert Christian Menanteau.
Une proposition explosive dans le rapport sur la santé au travail qui a été remis hier soir à Matignon. Pour faire des économies, les auteurs préconisent de supprimer purement et simplement un jour de carence pour tout le monde. Les entreprises elles-mêmes devraient, selon eux, avoir l'interdiction de compenser cette journée, ce qui est le cas la plupart du temps actuellement dans le secteur privé.
Les milliers de cahiers de doléances remplis depuis maintenant plusieurs semaines par les Français, eh bien ils sont depuis hier soir entre les mains des préfets.
Charge maintenant aux représentants de l'État de les numériser et de trier leur contenu pour faire remonter les principales revendications. C'est l'Association des maires ruraux de France qui avait appelé ses adhérents à ouvrir les mairies pour permettre de recueillir la parole des Français en pleine crise des gilets jaunes. Mais que vont devenir ces documents? Comment vont-ils être utilisés? C'était la question hier de ces élus venus les déposer à la préfecture de l'Eure sous les yeux de Marie Mollet pour RTL.
Des cahiers à spirale, des carnets papier Bible, des croquis, des ratures et beaucoup de pages blanches. Certains maires sont venus en personne, parfois en dimanche, confier leurs cahiers de doléances à la préfecture.
Les doléances de la commune de Marcilly-sur-Eure. Donc voilà, il y en a un qui demande le rétablissement de la peine de mort.
Oh.
Vous imaginez ? En veux-tu, en voilà, il y en a des tas et des tas. Plafonnement des salaires, ne serait-ce que pour les patrons, mais aussi les footballeurs. Antoine Griezmann, Karim Benzema.
Comme quoi les doléances, hein. Donc voilà, je pense que vous allez faire avec tout ça. C'est bien noté ?
C'est bien noté.
En vous remerciant.
À 50 km de là, après les champs de blé, le village de Vexin-sur-Epte et ses cordes fermes. Le maire Michel Jouyet tarde à faire ses adieux à son cahier de doléances et ses 14 contributions.
On a un florilège. Ces 14 belles pages, un beau monument, le génie français. Même si quelque part, c'est des lignes à la Audiard, c'est le peuple. La pire des choses, c'est que ça aille, non pas au cachot, mais à la cave. Comme on me l'invitait tout à l'heure, on me disait, monsieur le maire, je reprends mes lunettes, le courrier paraît long, s'il vous plaît, prenez le temps de le lire jusqu'au bout. Ben voilà ce que je dirais à un ministre. Monsieur le ministre, c'est peut-être un peu long, mais prenez le temps d'aller jusqu'au bout.
Aller au bout, traduire ces cahiers en actes, mais beaucoup de maires s'interrogent, comment l'État va-t-il faire pour condenser ces inventaires à la Prévert.
Reportage RTL signé Marie Mollet. C'est un sommet historique qui s'ouvre tout à l'heure au Vatican. À l'initiative du pape François, les représentants des évêques de tous les pays se retrouvent pour évoquer la protection des mineurs dans l'Église, des États-Unis au Chili, en passant bien sûr par la France avec l'affaire Prena. Les victimes se comptent par milliers. Cette rencontre qui leur donnera la parole doit durer 3 jours. Un dramatique incendie cette nuit dans la capitale du Bangladesh. Au moins 69 morts à Dhaka. Les autorités craignent un bilan beaucoup plus lourd. Des entrepôts de produits chimiques ont pris feu. Mais tout un quartier d'immeubles d'habitation a été ravagé.
On en vient à ce nouveau coup de théâtre dans l'affaire de la disparition de la petite Fiona. La condamnation de la mère, Cécile Bourgeon, a été annulée hier.
Décision de la Cour de cassation, les assises de Haute-Loire avaient prononcé une peine de 20 ans de prison en février dernier à l'encontre de la jeune femme pour des coups mortels portés à sa fille en 2013. Le corps de Fiona, 5 ans, n'a jamais été retrouvé. Ce n'est pas la fin de l'histoire, il pourrait y avoir un autre procès. En attendant, Frédéric Perruche, Cécile Bourgeon ne dort plus en prison.
Oui, Cécile Bourgeon a passé sa première nuit de liberté, courte nuit après des heures de trajet à Perpignan, dans l'appartement de sa mère et de son beau-père qui sont venus la chercher en voiture à la prison de Lyon-Corbas. Elle n'a pas de travail, pas de revenus et pourrait donc résider dans l'appartement familial pour préparer son 4e procès qui devrait se tenir en juin prochain à Lyon. Peut-être. Mais en attendant, elle n'a aucune contrainte, pas de contrôle judiciaire, pas d'interdiction de se rendre à Clermont-Ferrand, voire autour du lac d'Eda où elle assure avoir enterré Fiona à un endroit qu'elle n'a jamais retrouvé. Elle pourrait même revoir ses enfants sous condition, même si elle a été déchue de l'autorité parentale. Le plus jeune, 5 ans, est placé dans une famille d'accueil. L'autre, la sœur cadette de Fiona, vit chez son père à Clermont.
Frédéric Perruche.
Allez, on passe au foot à 6h08 sur RTL. Le PSG a, comment dire, déroulé hier soir face à Montpellier.
Victoire 5-1, c'était un match en retard de la 17e journée de Ligue 1. Autre match en retard, Bordeaux et Guingamp. 0-0 en Ligue des Champions. Bah, c'est très bien parti pour l'Atlético de Madrid. Les coéquipiers d'Antoine Griezmann ont battu la Juve de Cristiano Ronaldo 2-0 dans l'autre 8e de finale aller d'hier soir. Manchester City est allé battre les Allemands de Schalke 04, 3-2. Une décision très attendue aujourd'hui par plusieurs fédérations sportives. Les organisateurs des JO de Paris dévoilent une liste de disciplines qu'ils souhaitent voir figurer au programme des Jeux de 2024. On parle notamment de la pétanque, mais aussi du surf, de l'escalade et de la breakdance.
Autre décision annoncée hier, celle-ci. Une première pour le Tour de France.
Il partira dans 2 ans du Danemark. 3 étapes au total, dont la première à Copenhague. Choix logique pour le patron du Tour, Christian Prudhomme.
La première raison du départ du Tour de France à Copenhague, c'est la rencontre entre la plus grande course cycliste du monde, le Tour de France, et la ville la plus cyclable au monde, Copenhague. Dans toutes les études d'opinion depuis une dizaine d'années, Copenhague est placée numéro 1 pour tout ce qui a pu être fait depuis le choc pétrolier de 1973 pour favoriser la place de la bicyclette dans la ville. C'est un pays tout entier qui était derrière cette candidature. Il y a 3 pays au monde où il y a plus de gens qui sont devant la télé pour regarder le Tour de France qu'en France. Et dans ces pays-là, il y a le Danemark. C'est plus d'une personne sur deux qui regarde le Tour de France à la télé, mais c'est aussi plus d'une personne sur deux à Copenhague qui prend sa bicyclette tous les matins pour aller au travail. Quand on part de l'étranger, il y a toujours un succès populaire absolument phénoménal. On va montrer des choses qui sont aussi formidables. Je pense notamment à la 2e étape avec le final sur 2 ponts géants successifs. Ça veut dire dans les 20 derniers kilomètres, 18 kilomètres au-dessus de la mer. Le vent souffle très fort et où on aura une bagarre sans aucun doute et peut-être même des écarts qui seront très importants. Souvenez-vous du départ du Trek en 2015 où la première étape dans le vent en Zélande avait fait autant d'écarts si ce n'est plus que des grandes étapes de montagne.
Voilà, ça c'est pour le Tour 2020. 21, donc, Christian Prudhomme avec Nicolas Georgerot.
Merci beaucoup, Jérôme. Et à tout à l'heure, à 7h, avec Yves Calvi. Le temps avec vous, Valérie. Tiens, on a Bruno qui nous signale 1 degré. C'est pas bien chaud ce matin à Soissons, mais s'il fait 1 degré, c'est parce que le ciel est parfaitement dégagé.
C'est bien.
Et donc, que la journée sera magnifique.
Voilà, vous avez tout dit pratiquement.
Merci,
Valérie. Si ce n'est que les brouillards sont, comme hier, hein, localement assez denses, assez épais. C'est le cas notamment sur la moitié nord du pays, un petit peu aussi en Aquitaine ou encore sur les hauteurs provençales. Il faudra le temps que ces brouillards se dissipent. Ils prendront du temps au nord de la Seine, mais ça finira par se faire ensuite plein soleil sur tout le territoire cet après-midi avec des températures parfaitement printanières. 14 degrés attendus à Caen, 15 à Paris et Metz, 16 à Toulon, 17 à Avignon, 19 à Cahors et même 21 degrés à Pau.
Merci Valérie. Un mot du trafic, Olivia.
Eh bien écoutez, breaking news comme on dit dans le milieu, il n'y a aucun bouchon en ce moment en Ile-de-France. C'est assez exceptionnel pour être signalé. Ailleurs, Vinci Autoroute nous dit juste qu'il y a quelques ralentissements sur plusieurs portions de l'A36 dans les deux sens entre Besançon et Mulhouse.